Je vous laisse donc avec le diaporama et je vous dirai au fur et à mesure sur quel numéro de diapositive je me trouve pour mieux vous situer. Ça vous convient? Alors, sans plus attendre, on a perdu un peu de minutes, donc je vais probablement faire une présentation en accéléré et peut-être aller aux points essentiels pour laisser quand même du temps aux questions et aux échanges qui pourraient émerger. Alors, d'abord, juste rapidement, à la page 2, vous pouvez voir le plan. Je vais parler brièvement du contexte de Polytechnique Montréal. Donc, c'est une université monofacultaire qui offre des programmes de génie. Et c'est important parce que ces choses-là se vivent hein, dans un lieu et dans un espace-temps. Donc, toute cette expérience, ce partage d'expérience est passé dans un lieu particulier, dans un moment particulier de son histoire. Ensuite, voir le lien entre l'approche programme et le développement de compétences et comment on peut mettre en œuvre cette approche programme. Encore une fois, en référant à l'exemple de Polytechnique, quelques ingrédients nécessaires pour assurer sa réussite et si on a le temps, on peut discuter des résultats puisque ça fait quelques années maintenant que l'école Polytechnique vive avec cette expérience d'approche programme. Donc, si, Amandine, je n'ai pas de message de votre part, donc ça veut dire que le son entre toujours bien et que vous réussissez à me suivre comme il faut. Donc, on peut avancer à la diapositive 3 où vous pouvez voir là un peu les détails du contexte de Polytechnique. Donc, 13 programmes de premier cycle, environ 220 professeurs, 5000 étudiants. Et le programme dure 4 ans. Donc, pour devenir ingénieur à Polytechnique, c'est 4 ans. C'est un programme qui est agréé donc par le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie, le BCRPG. Et Polytechnique est une école indépendante, mais elle est affiliée à l'Université de Montréal. Donc, on partage un campus et certaines ressources. Mais somme toute, nous sommes indépendants et avec une administration propre. Première question, donc, à la diapositive 4. Première question, pourquoi envisager l'approche programme? Bien, il y a, je pense, trois principales raisons. Il peut en avoir d'autres, mais trois principales raisons, socio-économiques, professionnelles et, on l'espère, aussi pédagogiques. Donc, du côté socio-économique, répondre à un danger. Donc, un danger pour une école d'ingénieurs, c'est une baisse de clientèle. La compétition qui vient des autres écoles. La disparition, soit d'un programme, soit de l'école. Les médias, qu'est-ce qu'on en dit? Et aussi la reddition de comptes. Donc, on est responsable vis-à-vis les argents qui nous sont envoyés par le gouvernement, étant une école publique. Bon, du côté professionnel, il y a les organismes d'agrément qui peuvent certainement influencer les choses, les associations professionnelles, des règles qui viennent changer un peu la donne. Et parfois, on peut suivre ou même provoquer des changements dans le reste du monde. Et bien sûr, l'aspect pédagogique vient pour pouvoir améliorer de façon générale la formation des étudiants. Donc, de ces trois raisons, je dirais, si vous avancez à la diapositive suivante, Polytechnique s'est retrouvée dans une situation précaire au début des années 2000. Donc, la décision était surtout socio-économique. On avait une baisse de clientèle. Puisque les programmes ou l'université est financée au nombre d'étudiants. Donc, si on perd des étudiants, ça veut dire qu'il faut couper dans les budgets. Et ça, il n'y a aucun directeur qui aime faire ça. Puis, dans une moindre mesure, mais évidemment, on parlait également de l'amélioration de la formation. Donc, il y avait là une volonté explicite du directeur général pour faire quelque chose. Déjà, nous étions à la mi-2003, la mi-année 2003. On a donc commencé quelques enquêtes, autant internes qu'externes. On s'est rendu compte que les étudiants préfèrent aller vers d'autres établissements. Essentiellement, c'était une préférence pour l'université McGill à Montréal. McGill, qui est une université anglophone, donc la langue anglaise qui leur donne la possibilité de pouvoir travailler à l'international. Et puis aussi une université qui n'est pas à Montréal, mais qui est en périphérie, qui est très dynamique, je dirais même innovante. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de l'Université de Sherbrooke, donc il y avait là des stages déjà pour les étudiants et quelques méthodes d'enseignement plus actives. Alors, c'était le début des années 2000, c'était le début des communications et des réseaux sociaux, donc l'information circulait plus rapidement et j'imagine que les étudiants savaient ce qui se passait ailleurs, donc ils préféraient aller ailleurs. À l'interne, on s'était rendu compte aussi qu'il y avait une attrition, un taux d'attrition assez important entre la première et la deuxième année. On perdait 30% de nos étudiants, soit pour des questions de motivation, donc ils étaient déçus de la formation. Il y avait aussi quelque chose de lié à la perception qu'ils avaient du tronc commun. Donc la première année, lorsque les étudiants arrivent, s'inscrivent, peu importe le programme dans lequel ils vont s'inscrire, ils ont tous les mêmes cours à suivre. Donc, c'est ce qu'on appelait le tronc commun, hein, essentiellement des cours de mathématiques, de physique, bon, vous voyez un peu les sciences fondamentales. Et aussi, on avait les employeurs qui se disaient d'une certaine façon insatisfaits de nos finissants, essentiellement pas tant pour les connaissances disciplinaires, mais plutôt pour des compétences transversales, ce qu'on pourrait qualifier de compétences transversales, soit la communication écrite et orale. Et le travail en équipe. Donc, essentiellement, ils n'étaient pas en mesure de faire des présentations, de communiquer entre eux et de travailler en équipe de façon efficace. Alors, il y avait là quelques informations qui nous ont permis de faire quelques choix, de prendre des décisions. Et si vous avancez à la diapositive suivante, là, les décisions, donc de réformes importantes des programmes. Alors, fin année 2003, début année 2004, on a demandé à tous les programmes, définissez le profil de sortie et définissez-le en vous fondant sur des compétences. Donc, vous aviez les programmes qui devaient définir un référentiel, une liste de compétences, tout ça en faisant un benchmarking. Donc, ils devaient se comparer aux meilleures universités que eux considéraient les meilleures dans leur domaine, évidemment. Donc, certains se sont comparés autant avec des universités québécoises, canadiennes qu'internationales, surtout aux États-Unis. On leur a demandé de définir leur vision du diplômé et d'en profiter aussi pour revoir le contenu des cours. Donc, c'était une occasion, tant qu'à faire une réforme, de rajeunir un peu les contenus. Alors, il y a eu certainement des cours qui se sont créés, mais d'autres qui ont disparu et plusieurs ont été modifiés. Et aussi, on voulait une formation cohérente et de qualité. Donc, on leur demandait de revoir un peu les méthodes d'enseignement, soit en faisant l'ajout de pédagogie active, l'ajout de stage aussi, un stage obligatoire, qu'il n'y avait pas de stage obligatoire pour les étudiants auparavant, et aussi pour essayer de faire en sorte que la motivation soit un peu plus présente. On avait aussi un souhait, mais qui ne s'est pas réalisé, c'est pour ça que je l'ai mis en grisé, mais de revoir les méthodes d'évaluation des apprentissages. Donc, on voulait des méthodes un peu plus authentiques. Ça ne s'est pas fait en 2004. Ça s'est fait beaucoup plus tard, je vais peut-être vous en parler tout à l'heure, mais pour l'instant, ils avaient beaucoup sur leur assiette, beaucoup de choses à faire. Donc, il y avait urgence aussi. On voulait que les choses se fassent très, très vite. Alors, en un an, on a demandé aux gens de procéder. Je passe à la diapositive numéro 8. Bon, on peut se poser la question, quel est le lien, hein, entre l'approche programme et le développement de compétences? Et pour ce faire, j'utilise une allégorie, donc l'allégorie des trois maçons, que vous connaissez sans doute. Donc, un passant qui leur demande, que faites-vous? Le premier dit, je taille cette pierre. Le second répond, nous élevons un mur. Et le troisième, nous bâtissons une cathédrale. Donc, c'est un peu l'image de qu'est-ce que permet l'approche programme. D'un côté, nous avons les tailleurs de pierre, donc qui sont évidemment les professeurs, qui individuellement font un excellent travail. Hein, cela dit, on a d'excellents professeurs qui offrent des cours de très bonne qualité, mais tout ça est fait de façon individuelle. Parfois, il y a des équipes qui se mettent en place. Donc, on peut voir un mur qui s'élève, qui est un très beau mur. Mais si nous voulons finalement avoir un profil de sortie cohérent et qu'on sache tous c'est quoi ce profil et qu'on sache tous qu'est-ce que vont pouvoir faire ces étudiants, ces finissants, une fois qu'ils ont passé au travers le programme. Donc, ici, l'idée de bâtir cette cathédrale où les murs sont au bon endroit, les fenêtres tous bien placées, il y a des portes tous à la bonne hauteur et tout ce qu'il y a besoin, tout ce qu'a besoin d'une cathédrale pour être belle et fonctionnelle finalement. Donc c'est un peu l'idée. Alors, l'approche par compétence, on peut le voir de différentes façons. Certains vont parler de design de trois façons, de trois manières hein, de faire le design pour une approche par compétence, soit le design en parallèle. Alors là, je suis rendu à la diapositive numéro 9. Donc, le design en parallèle où il y a un plan unique pour chaque cours. C'est des actions surtout monographiques. Le professeur qui est l'expert travaille à développer des compétences, mais uniquement dans son cours, sans se préoccuper nécessairement de ce que les autres professeurs vont faire dans leur cours. Les limites, bien, c'est le transfert, la faible cohérence. Des liens parfois difficiles à établir pour les étudiants entre les différents cours et entre les différentes compétences. Le design différencié, on peut peut-être voir là une tentative par une discipline qui choisit une compétence et qui conçoit un plan de formation qui lui est propre. Et là, les étudiants peuvent voir peut-être un certain lien entre une relation entre la formation et les compétences, mais somme toute, on garde les compétences disciplinaires d'un côté, les transversales de l'autre, et on les développe de façon séparée. Tandis que le design intégré, bien, on va intégrer à la fois les compétences disciplinaires et les compétences transversales, et on va les définir de façon conjointe. Donc, le programme va s'asseoir pour discuter, pour voir c'est quoi les compétences. Il y a une action donc concertée et mieux adaptée pour la complexité de la formation. Les avantages, bien, le cheminement peut paraître plus logique, hein, et plus explicite. Et on a toujours les compétences qui sont le point repère principal. Donc, on se réfère toujours aux compétences. Toutes les décisions sont prises en fonction des compétences. Évidemment, la limite, ça nécessite une plus grande coordination, des discussions, une négociation qui est plus forte entre les professeurs. Donc, la diapositive suivante nous donne une très brève définition de qu'est-ce que c'est que l'approche programme, mais c'est surtout un modèle d'organisation de la formation, de l'enseignement. C'est essentiellement ça. C'est une façon de travailler qui est différente et elle va s'articuler autour d'un projet de formation. Donc, l'approche programme veut que, en opposition à l'approche cours, que nous travaillons tous à la mise en œuvre d'une approche par compétence qui soit la plus cohérente avec les meilleures décisions et que l'étudiant qui chemine à l'intérieur du programme puisse voir ses développements. Donc, très souvent, on va y aller par étapes. Les étudiants vont être confrontés à des problèmes beaucoup moins complexes en début de parcours, et plus on va avancer dans le parcours, plus on va leur présenter des situations complexes qui augmentent en complexité, et donc on va vouloir également augmenter leur autonomie. Alors tout ça, ça prend une coordination, ça prend des décisions qui ne sont pas prises par une seule personne à l'intérieur d'un seul cours, mais bien une décision qui est collégiale où les décisions sont prises par un comité de programme. Alors à la diapositive suivante, si vous me suivez toujours, je suis rendu à la diapositive numéro 11. J'espère que la technologie nous suit bien cette fois. On peut voir donc cette synergie nécessaire autour du projet de formation. Donc, vous pouvez l'appeler projet de formation, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ici, on a utilisé ce terme-là, mais c'est là où tout s'articule et le projet de formation devient la pierre d'assise. Notre vision du diplômé, les valeurs et les attitudes qu'on veut développer, les compétences qu'on veut développer, toute l'organisation des contenus et des dispositifs pédagogiques tourne autour du projet de formation. De façon plus visuelle, si vous voulez, à la diapositive suivante, numéro 12, on peut voir comment on peut définir l'approche programme de façon plus imagée ici dans un graphique. Alors, très souvent, on a les trois niveaux, donc le macro, le méso et le micro. Au niveau macro, j'ai vu certains endroits où c'est l'établissement entier qui décide. On va adopter l'approche par compétence et donc on a besoin d'approche programme. Parfois, c'est juste une faculté, parfois même c'est juste un département. Donc, tout dépendant dans quelle université vous vous retrouvez, vous avez plusieurs cas de figure. Quoi qu'il en soit, c'est à ce niveau que se définit le projet de formation. Au niveau méso, là, nous pouvons faire travailler les personnes autour d'un comité de programme. Et c'est là où on va prendre des décisions plus d'organisation et de planification. Donc, quel cours, à quelle année, On peut s'aider dans la planification avec une matrice à double entrée. Donc, on peut voir d'un côté lister les compétences et sur l'autre axe, on peut voir les cours qui vont venir contribuer au développement de ces compétences. Ça nous permet de définir donc les endroits où nous voulons évaluer les compétences, à quel moment, par quels moyens et par quel niveau de complexité. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus facile de travailler lorsque nous avons cette vision d'ensemble du programme. Et tout ça, évidemment, est fait en collaboration et en transparence. On suggère fortement aussi d'assurer un suivi des décisions qui sont prises. Donc, à l'École polytechnique, la première année s'est faite et on préparait déjà la deuxième année pendant qu'on implémentait la première année. Donc, en même temps que nous voulions savoir si les décisions qui avaient été prises étaient adéquates, ce suivi-là se faisait en même temps qu'on planifiait la deuxième année. Donc, vous voyez tout le travail assez lourd qui s'est fait pour les premières années avant qu'on atteigne cette vitesse de croisière et qu'on soit un peu plus rassuré sur les choix qui ont été faits. Quoi qu'il en soit, le niveau micro, c'est le professeur et c'est là où tout se passe. C'est là où tout se vit. Alors, toutes les décisions préalables, si elles ne sont pas rendues au niveau micro, c'est-à-dire dans la salle de classe avec le professeur, bien, tout ça reste beau sur papier, mais on ne la vit pas en tant que telle dans la classe. Alors, les décisions du professeur, commençant par son design, le design pédagogique, donc les dispositifs pédagogiques, on les veut alignés, donc alignés autant par rapport aux compétences, mais aussi par rapport aux résultats d'apprentissage, aux objectifs, donc vous pouvez utiliser les deux termes, autant les résultats d'apprentissage que les objectifs peuvent être utilisés sur les plans de cours, donc les syllabus, qui viennent nous préciser ce que chacun des cours vient faire à l'intérieur du programme. Évidemment, on a besoin de la rétroaction du professeur pour aider l'étudiant à développer ses compétences, une espèce de coaching, et des adaptations nécessaires. Donc, les méthodes d'évaluation plus authentiques, on va y revenir, mais c'est quelque chose qui est quand même difficile parce que ça demande du temps et ça demande aussi de la formation. Et évidemment, il y a l'EXO, donc le niveau EXO qui est complètement à gauche, c'est les employeurs. Les employeurs doivent avoir un mot à dire, je pense, à chaque niveau, pour justement rester un peu en ligne avec les exigences, avec les besoins externes de l'université. Voilà, alors je vais aller assez rapidement ici parce que je veux garder du temps pour les questions. Vous avez le document, mais essentiellement, on a dit ce qu'il y avait à dire de l'approche programme. Donc, une cible qui soit explicite. On sait ce qu'on veut former. On sait à quoi s'attendre après 4 ans. On a une vision de l'ensemble du programme et tout le monde est capable de savoir pourquoi on fait les choses. Les professeurs travaillent donc en collaboration, en discussion. J'avance à la diapositive 14. Évidemment, c'est une approche intégrée, c'est qui facilite beaucoup l'intégration des matières et la mise à jour des matières aussi, autant des dispositifs pédagogiques que de la formation générale. Donc, la motivation est influencée, la persévérance des étudiants et leur satisfaction. Donc, la diapositive numéro 15, vous avez là un tableau qui vous permet de voir l'approche cours versus l'approche programme par rapport à certains éléments d'organisation. Je vous le laisse, c'est assez explicite, donc ce qu'on peut y voir. J'avance un peu et encore une fois, mon souhait, c'est de rattraper le temps perdu pour laisser de la place pour les questions. Quelques freins et résistances, donc évidemment, c'était quelque chose de nouveau pour les professeurs. On a entendu toutes sortes de choses. Certains étaient d'accord, d'autres moins d'accord. Les peurs principales, c'est le temps à investir, les changements qui sont exigeants, donc la collaboration entre les profs. On n'est pas habitué de se parler de ces choses-là entre les profs. Le fait aussi de se montrer, on devient un peu exposé aux critiques des collègues. Bon, tous les développements pédagogiques nouveaux à faire, ça, encore une fois, une question de temps. Une perte de productivité côté de recherche. Donc, on sait que les dossiers de recherche sont très importants pour les professeurs. Alors, là aussi, il peut y avoir un souci de ce côté. On a on craint que ce ne soit pas suffisamment valorisé par l'institution et un danger donc pour l'évolution de sa carrière. Donc, quelques freins et résistances qui étaient tout à fait légitimes, présents, mais qui aujourd'hui, évidemment, ne sont plus là. Tous les professeurs sont convaincus d'avoir fait les bons choix. Quelques ingrédients, évidemment, il faut promouvoir. Donc, je suis rendu à la diapositive 17. Promouvoir la collaboration, il faut planifier. Donc, vraiment organiser ça comme un projet d'envergure. S'assurer qu'on sait qu'est-ce qu'on va faire avec un calendrier bien défini. On essaie de respecter le calendrier. Dans le cas de Polytechnique, le calendrier était très, très, très serré. Alors, les professeurs ont travaillé très fort pendant la première année et ensuite les années subséquentes jusqu'à temps qu'on ait implémenté les 4 ans. Donc, ça a demandé beaucoup d'efforts. Il faut, je suis à la 18, il faut exercer un suivi, donc autant formatif que sommatif, c'est-à-dire être à l'écoute des gens, mais avoir aussi des outils qui nous permettent de prendre le pouls un peu de façon plus formelle, d'avoir des données sur lesquelles se baser pour prendre les meilleures décisions, pour adapter et éventuellement modifier des choses. Ça prend des moments où on célèbre, donc pour valoriser le temps que les professeurs investissent et valoriser l'enseignement. Si vous avez accès à des professionnels de la pédagogie universitaire, il faut les utiliser également. Ce sont des agents qui peuvent faciliter beaucoup et éviter bien des soucis, bien des problèmes. En fait, pour terminer, je pense que l'université, les autorités, donc, ont besoin d'être derrière l'approche programme. C'est les premiers porteurs de l'approche programme. C'est eux qui doivent être non seulement des gens, des gestionnaires, mais des leaders qui sont en mesure de mobiliser les gens autour de ce projet de formation. Et voilà, de rendre la chose possible. Donc, s'il n'y a pas cette volonté politique, malheureusement, les choses ne se produisent pas. C'est la réalité. Voilà, donc je passe par-dessus ici un exemple d'organisation, mais je pense que c'est secondaire, vous pouvez le regarder. J'ai mis aussi le fil des événements à l'École Polytechnique à partir de 2003 jusqu'à juillet 2015, où on a eu l'agrément confirmé par le BCAPG avec une nouvelle norme qui maintenant, avant, il n'y avait pas, le bureau d'agrément n'avait pas défini les compétences, maintenant elle l'a fait, donc c'est fait. Elle s'est alignée avec ADET aux États-Unis. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici et je vais prendre des questions. Il nous reste, je ne sais pas beaucoup de temps, mais profitons du moins du temps qui reste.